Ce soir, sur Campus Grenoble.
90.8.
Nous ferons ce qui est interdit.
Nous irons ensemble à la buvette.
C'est l'apéro.
Phonie.
L'exception radiophonique.
L'apérophonie.
De la culture.
Et de la musique.
Au shaker et à la cuillère.
Campus Grenoble 90.8.
Sur Insta, je veux voir des trucs avec du contenu, comme des gens se battent pour du PQ.
Vous écoutez toujours Radio Campus Grenoble et on vous propose maintenant d'écouter le montage d'une interview d'une personne qui a fait un master en biochimie et qui se propose d'apporter quelques informations, quelques explications sur le coronavirus. Alors voilà, on est surexposé d'informations, on a énormément de choses qui nous sont dites à longueur de journée. Mais malgré tout, il persiste peut-être quelques questions pour vous, ou alors certaines choses qui sont dites mais qui ne sont pas dites de manière assez claire pour être compréhensibles. Ben voilà, peut-être que dans ce montage, vous allez trouver les réponses que vous vous posez encore. En tout cas, on va aborder des tas de questions, comme par exemple, c'est quoi le coronavirus, son origine probable, le concept de charge virale, qui est importante aussi, un petit comparatif avec la grippe, revenir un petit peu sur les gestes barrières, quels sont les différents masques et leur utilité, comment ils restent contagieux sur différentes surfaces, les tests, les personnes à risque, les médicaments à éviter, et comment ça se passe un peu ailleurs dans le monde. Dans ce montage, vous aurez l'occasion d'écouter un extrait de Confinement, une parodie de Lisa Pariente, sur un air de Chandelier de Sia, ainsi que Je reste debout de Section d'Assaut. Bonne écoute.
Alors, c'est quoi un virus? Un virus, c'est un micro-organisme. Dans les micro-organismes, il y a les bactéries, les champignons, les virus. Les bactéries, on en a partout, sur la peau, dans les intestins. On a des bactéries avec qui on vit facilement. Et puis, des fois, il y a des bactéries même avec qui on vit facilement qui se retrouvent à un endroit où elles ne devraient pas être et on a des infections. C'est-à-dire que le micro-organisme, il va se reproduire très très vite. Et en fait, il va hacker les fonctions des cellules pour se reproduire. Et du coup, là, on est malade et notre système immunitaire, il vient nous défendre. Alors, le virus, c'est un peu comme le même principe-là, sauf que le virus, lui, il a besoin d'être dans les cellules pour se reproduire. Et en fait, un virus, c'est vraiment comme une espèce de petite boîte, une petite machine, avec à l'intérieur du matériel génétique. Et il va injecter, c'est comme une petite seringue, il va injecter dans la cellule son propre matériel génétique, qui est très condensé et qui va en fait hacker la cellule pour que en fait la cellule produise du virus au lieu de produire autre chose. Par exemple, les cellules qui tapissent la membrane à l'intérieur de nos poumons, c'est des cellules qui produisent un petit mucus et ce mucus en fait il va attraper la pollution quand on respire par exemple. Il va attraper la pollution, ça produit plus ou moins de mucus selon nos besoins et on va tousser, on va cracher ce mucus et les particules de pollution dedans. Ce virus, il va pouvoir empêcher ces cellules-là de produire du mucus
ah ouais.
et leur faire produire autre chose. Et donc, ça, c'est le coronavirus, par exemple, c'est un virus qui peut être très pathogène. Ça veut dire entraîner une maladie au niveau des voies respiratoires, mais qui, en fait, on a vu qu'il infectait aussi d'autres voies. Par exemple, il peut infecter le système digestif, il peut infecter le nez, voire certaines cellules du cerveau, où il y a des cas qui ont été décrits avec des pertes d'odorat. On parle d'anosmie aussi. Et là, on suppose, et ça encore, c'est des suppositions, on suppose que c'est parce que le virus a pénétré des cellules du nerf olfactif et les a aussi hackées, et du coup a entraîné la perte d'olfaction. C'est quoi le but d'un virus, donc, ou d'une bactérie? C'est, comme toute la vie, c'est de se reproduire. Donc le virus, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans ta cellule, il produit son matériel génétique, et une fois qu'il est bien installé, il fait en sorte que cette cellule, elle produise du virus, elle produit du virus. Et ça fait que la charge virale augmente et qu'on va développer des pathologies. Pour l'instant, on ne connaît pas grand-chose du coronavirus. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est un nouveau virus. Les recherches en virologie, en infectiologie, c'est des trucs qui mettent des années. Et c'est pour ça qu'on peut avoir l'impression que les scientifiques font n'importe quoi actuellement, mais parce qu'en fait, on n'a aucune idée de qu'est-ce que c'est ce nouvel agent. Donc on a son ADN, on le connaît, mais c'est pas lentement la recherche. En une semaine, c'est pas possible de trouver tout.
Du coup, est-ce que les scientifiques, ils savent d'où vient le virus ou...
Alors, à la base, on a dit que le virus, il venait d'un marché... En fait, c'est un marché où on vend des animaux vivants et des animaux sauvages. Et que du coup, le fait de vendre des animaux sauvages, que les animaux sauvages soient en grande proximité entre près des êtres humains, ce serait l'endroit où, en fait, le coronavirus, qui est, on appelle une zoonose, c'est-à-dire une maladie des animaux, et puis passer à l'homme. Alors, comment un virus il passe à l'homme? Un virus, il se réplique, il se réplique, il se réplique dans les cellules de ses hôtes. Et puis, comme toute cellule vivante, il y a des fois une mute. C'est-à-dire que le matériel génétique qui se reproduit, des fois, il y a une faute de reproduction et il change. Ouais. Et en changeant, il peut acquérir des nouvelles capacités. Et là, apparemment, ce qui s'est passé, c'est que ce virus, il a muté et il a acquis une nouvelle capacité qui est d'avoir extrêmement d'affinité pour les cellules humaines et d'avoir beaucoup d'adhérence pour les cellules humaines, plus des moyens de se protéger contre le système immunitaire humain. Et du coup, partant de là, un humain qui a pu être à la proximité d'un animal qui l'a porté, l'a chopé, le virus avait muté et c'est parti. Après, il y a plein d'autres théories. Il y a des théories qui disent que c'est pas la chauve-souris, c'est le pangolin. Mais là, c'est la même chose, c'est une zoonose, une maladie des animaux. En tout cas, savoir d'où il vient, savoir que c'est un virus qui vient des animaux, ça nous permet aussi de l'étudier. Une notion importante à capter avec ce virus, c'est la notion de charge virale. C'est-à-dire que c'est pas pareil si tu touches le virus sur la poignée du caddie et puis après tu te cures le nez. Parce que, en fait, on fait tous des erreurs et que être hyper rigoureux sur les contacts, c'est dur. Tu te mets un peu de virus dans le nez. Le virus, il développe dans ton nez, mais il y en a pas beaucoup. C'est pas pareil que si t'as quatre malades qui te toussent dessus, que t'es dans un endroit où l'air ou la pièce est saturée en virus, là, tu peux contracter des formes beaucoup plus graves. Et donc ça, c'est ce qui est arrivé avec avec du personnel soignant dans la région Grand Est, notamment à Mulhouse et à Strasbourg, où il y a des médecins qui ont été surexposés au virus avec une grosse charge virale. Grosse charge virale parce qu'ils étaient dans un environnement où il y avait beaucoup de virus. Et là, en fait, on voit que on contracte des formes graves plus rapidement. Ça, cette notion-là, ça m'amène à autre chose, c'est de dire que si vous êtes confiné à plusieurs et qu'il y a quelqu'un qui est malade, qui tousse, donc oui, vous allez vous dire, ah ben, on va tous être contaminés. Mais en fait, c'est crucial que, à ce moment-là, s'il y a quelqu'un qui commence à tousser, parce que Le virus se transmet surtout par la toux. Même si on n'a pas les symptômes avant qu'on le transmet, on va le transmettre moins parce qu'on tousse pas. C'est crucial qu'à ce moment-là, la personne qui est malade soit isolée. Parce qu'en fait, si vous vous retrouvez à 4, 5 personnes à être vraiment malades dans le même endroit clos, vous augmentez la charge virale. C'est pour ça que pour moi, les personnes qui sont malades, même si tu te dis « Ouais, bon, d'accord, la moitié de mes collègues sont contaminés parce que on a été ensemble une semaine, là, je suis malade », bah en fait... Faut quand même genre vraiment essayer de pas leur toucher à la gueule et de se laver les mains et même si tu te dis ils sont déjà contaminés, tu vois. Parce qu'en fait tu limites la charge virale pour tout le monde.
Ouais, la charge virale c'est un peu la concentration du virus dans l'air par exemple. Qui fait que tu le chopes plus facilement ou moins facilement quoi.
Sachant que le virus il se transmet pas par l'air, mais quand tu tousses, il peut être en suspension dans des gouttelettes, dans des micro-gouttelettes de salive qui sont dans l'air, qui restent 30 minutes, 40 minutes dans l'air. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit aux gens, si vous n'êtes pas à l'article de la mort, n'allez pas à l'hôpital. Parce qu'en fait, à l'hôpital, du fait que tous les malades y vont, bah, y a une charge virale plus importante. En fait, la toux de quelqu'un qui est malade, c'est 1000 fois plus de virus que touché sur une surface, tu vois. Par rapport à la grippe, en fait, il y a une autre considération qui est épidémiologique. Alors du coup, on me dit, oui, la grippe, chaque année, ça fait entre 10 000 et 15 000 morts en France. C'est vrai, mais la grippe, ça fait des morts des gens qui sont dans leur chambre, dans leurs EHPAD, surtout des personnes très âgées, et ça surcharge pas les hôpitaux, en fait. Et le truc, c'est que la grippe étant moins contagieuse, il n'y a pas ce risque-là. C'est-à-dire qu'en fait, le fait qu'on soit confiné actuellement, c'est pas pour arrêter l'épidémie. Parce que arrêter l'épidémie, c'est quoi? C'est un dépistage systématique avec une approche géographique de la maladie et un truc hyper rigoureux. Là, en fait, ce qu'on fait, c'est juste essayer de déplacer dans le temps le nombre de malades. Parce qu'il y a un effet de saturation des lits d'hôpitaux. C'est tout ce discours qu'il y a à propos de la nécessité d'aplatir la courbe. C'est-à-dire les contaminations et les cas malades augmentent de manière exponentielle. Et en se confinant, on peut faire en sorte d'être contaminé plus tard, donc d'être malade plus tard, et donc éventuellement d'être malade à un moment où les premiers qui ont été malades auront déjà récupéré. En fait, ce virus, c'est pas la grippe. C'est beaucoup, beaucoup plus virulent. C'est-à-dire que les gens qui développent des formes graves, c'est-à-dire peut-être... des gens touchés, ils vont avoir besoin d'être en réanimation pendant 20 jours à l'hôpital. Ça n'a rien à voir avec la grippe. Et des gens qui ont chopé une forme un peu atténuée de la maladie sans aller jusqu'à l'hôpital en réanimation sont restés une semaine à 10 jours chez eux, KO, avec une fièvre de dingue, en toussant comme pas possible. Ça n'a rien à voir avec la grippe. C'est beaucoup, beaucoup plus vénère. Et aussi, quelque chose qui est vrai, c'est que la grippe, on développe une immunité par rapport à ça. On l'a, puis après, on l'a plus. Pour l'instant, le coronavirus, on ne sait pas si les personnes qui guérissent du coronavirus peuvent pas le rechoper. En fait, pour l'instant, on sait vraiment pas grand-chose. Et c'est aussi pour ça que les autorités flippent pas mal. Par rapport à la grippe, c'est plus ça. C'est que c'est quand même beaucoup plus contagieux. Et puis, c'est pas tant par rapport à la taille de la population, quoi. Mais c'est plus par rapport aux capacités des hôpitaux. Parce que si les hôpitaux sont vraiment saturés, ça voudra dire aussi qu'on peut plus soigner les autres personnes qui ont d'autres problèmes. Faut voir un truc aussi, c'est que rester chez soi, prendre soin de soi, pas aller trop faire des trucs dangereux. En fait, tout ça, c'est vraiment typiquement la convalescence, quoi. Là, on nous demande à tous d'adopter le comportement de quelqu'un qui est déjà malade et puis qui va se soigner. Donc, c'est quand même aussi un climat parfait pour ne pas développer une forme grave. Allez,
ça me touche, mais je reste debout. Je suis touché, je reste debout. J'essaie de joindre les deux bouts. Ça fait mal, mais je reste debout. Ça me touche, mais je reste debout. Je suis touché, je reste debout. Mes vêtements sont pleins de boue. Ça fait mal, mais je reste debout.
Les épreuves, on ne cesse d'en verstra. Personne ne sait quand la vapeur s'inversera. On reste debout, on serre les coudes. On les encaisse parce qu'on sait à quoi servent les coups. Les soucis m'empêchent de me coucher aux heures d'écoute. Je me repose seulement quand les frères ou les sœurs m'épaulent. On serre les dents quand se resserre les taux. On dissimule la fatigue malgré les serres, les taux.
Les genoux à terre, ce n'est pas les coups. Je suis comme le daron, Harry, je reste debout. Inch'Allah, j'en arrive pas à me suicider. Oui, c'est à genoux que j'aimerais ressusciter. Mes cicatrices sont comme mes larmes. Trop de fierté pour que je te les montre, même si j'ai mal. Une grosse pensée à ceux qui ont perdu un proche. Tiens à dire à la famille qu'est à quelle s'accroche.
Ça me touche, mais je reste debout. Je suis touché, je reste debout. J'essaie de joindre les deux bouts. Ça fait mal, mais je reste debout. Ça me touche, mais je reste debout. Je suis touché, je reste debout. Mes vêtements sont pleins de boue. Ça fait mal, mais je reste debout.
Soucieux, t'as des dettes partout. Heureusement que t'as des potes. Tu vends la go, va tes rêves avant qu'elle se décote. En parlant de cote, la tienne en a pris cher. Sur liste rouge en Banque de France, on te voit comme un tricheur. Mais tant pis, demain est un autre jour. Pas le genre à appeler au secours, ni attendre l'autre jour. Très peu de larmes, les factures sont assez salées. Ils ont sucré ton salaire, c'était la diète toutes ces années. Heureusement que t'as la foi, du suicide tu prends pas la voie. La déprime veut un air dead, mais tu veux pas l'avoir. T'as le sourire, pourtant c'est ton estime qu'on viole. Mais tu fermes ton cœur, de peur qu'on le cambriole.
Ça me touche, mais je reste debout. Je suis touché, je reste debout. J'essaie de joindre les deux bouts. Ça fait mal, mais je reste debout. Ça me touche, mais je reste debout. Je suis touché, je reste debout. Mes vêtements sont pleins de boue. Ça fait mal, mais je reste debout.
On reste debout. On reste debout. On reste debout. On reste debout.
Aux familles du boulevard Auriol, les sans-papiers à la Courneuve, à ceux qui viennent à la nage et qui repartent en charter, à tous les handicapés, une pensée à tous les gens enfermés, à tous les peuples opprimés,
à nos familles, chapiteaux, sceaux, Diallo, famille Keïta, les bas, famille Sale.
La famille Mbaye, les séries, les rocards, à la petite Anaïs Kerala et toute sa famille.
Au Zaïre, la Guinée, Somalie, Rwanda, à tous les pays en crise, on reste debout.
D'accord. Et en fait, du coup, sur le côté contagieux, en fait, j'avais vu une vidéo d'une meuf médecin, a priori, qui a fait une vidéo sur Internet, et elle disait que le coronavirus, c'est genre presque deux fois plus contagieux que la grippe, mais sur une échelle de 1 à 10, ça se retrouve entre 2 et 3, la grippe entre 1 et 2, et
Ebola.
Ebola, ouais, ça se retrouve à 8. Hein.
Ouais.
Donc, c'est contagieux, mais c'est pas non plus de la folie de... Enfin, c'est pas follement contagieux non plus, quoi, si on fait attention, je veux dire.
Non, c'est pour ça qu'en fait, ça sert à rien de paniquer.
Ouais.
Il faut être rigoureux. En fait, il faut essayer d'arriver à faire une image de son corps et arriver à se rendre compte à chaque fois qu'on a des contacts à l'extérieur, par exemple, de chez soi. Et après, faire une désinfection systématique. Dans l'idéal, faut laver les vêtements aussi. Faut aussi laver les produits qu'on a pris en course. Mais en tout cas, les gestes barrières qui ont été mis en place en Corée, où c'est des gens qui ont l'habitude des épidémies, c'est gants et masques pour tout le monde. Et ça, c'est les choses que les consignes du gouvernement sont pas claires sur l'utilisation des masques. Pourquoi ? parce qu'en fait, il n'y en a pas assez.
Mm.
Et qu'ils veulent éviter un effet de panique où les gens vont voler des masques. Où il y a eu déjà en France des infirmiers qui se sont fait fracturer leur voiture pour leur voler des masques. En fait, on n'a pas les moyens de donner des masques à toute la population actuellement. Et donc, on les réserve pour les soignants. Et c'est pour ça que le gouvernement dit ça ne sert à rien de porter un masque.
Mm.
Quand on est à la campagne, qu'on est dehors, ça sert à rien de porter un masque.
Ouais.
Par contre, ça sert quand on est dans un lieu clos. Dans un lieu clos, par exemple, mettons, je vais à la poste, je rentre dans la poste, je mets un masque. Parce que, en fait, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de se dire, s'il y a quelqu'un qui est malade, qui est passé là et qui a toussé, faut pas que moi, je respire le virus. Mm. Après, les masques, ils sont distribués aussi en priorité actuellement aux personnes malades. Pourquoi? Bah, pour qu'elles toussent pas sur les autres. Et c'est aussi pour ça que c'est important d'aérer chez soi, parce que le virus, il est aussi dans des particules suspendues dans l'air selon les personnes qui passent ou qui passent pas. Et du coup, quand on aère, ça fait que l'air est plus dilué et du coup, il y a moins de chances de le choper.
Et du coup, une question qu'on se pose peut-être par rapport aux masques aussi, c'est est-ce que les masques, ils sont vraiment efficaces pour filtrer les particules? Tu sais, quand on tousse, éviter que les particules se retrouvent dans l'air. Et si oui, combien de temps ils sont utiles ces masques? Est-ce qu'ils doivent être à usage unique ou alors on peut s'en resservir?
Ça dépend des masques. Les petits masques standards dans les boîtes là, c'est des masques qui vont filtrer simplement ce que nous, on tousse. Et par contre, sur l'aspiration, ça va filtrer rien du tout. Après, il y a d'autres catégories de masques, notamment des masques dont on parle beaucoup, qui sont les masques FFP2 et FFP3. C'est des catégories de masques où les FFP2, il y a une filtration active de l'air qui est respiré. Et ça, en théorie, il faut les changer toutes les 4 heures.
Après, le virus, il reste combien de temps sur les surfaces qu'on touche? J'ai cru comprendre que c'était différent selon le type de surface.
Ouais, alors en fait, il y a des études qui ont été faites en laboratoire. Il y a une étude qui tourne beaucoup, qui vient d'un journal qui s'appelle le Lancet Journal Immunologie. C'est une étude en anglais et il y a eu des espèces d'adaptations qui ont été faites dans la presse mainstream qui sont des trucs très alarmants parce qu'en fait, ça montre que ce virus-là, à 20 degrés, il peut rester jusqu'à 5 à 6 jours. Voire 9 jours sur les surfaces plastiques et métalliques. Ce qu'il faut bien comprendre par rapport à cette étude, c'est que c'est une étude qui a été faite en conditions de laboratoire. Donc les conditions de laboratoire, c'est un espace aseptisé, des flux d'air qui sont contrôlés, pas de bactéries, pas de mouvements, pas d'animaux ou d'insectes qui peuvent interagir, où en fait on voit que le virus il persiste jusqu'à 9 jours, on va dire, sur une surface plastique, voire plus selon la température. Et en fait, ces études-là, elles correspondent pas à la réalité. Pourquoi? Parce que dans la réalité, toutes les surfaces autour de nous ou l'air qu'on respire, il y a des micro-organismes qui vont interagir avec le virus, qui vont accélérer sa décomposition, d'une part.
Mmh.
Donc c'est pour ça qu'on a lu aussi ailleurs des choses. Et puis c'est aussi pour ça que les médecins actuellement disent que le virus reste 2-3 heures, voire 6 heures sur des surfaces, parce qu'il y a des interactions qui font que le virus ne va pas résister. Et puis encore, il y a autre chose qu'il faut comprendre, c'est que on a vu que jusqu'à 9 jours, il y avait encore des traces de virus sur la surface. Mais ça ne veut pas dire que le virus restant, il est assez fort pour infecter. Donc ça, c'est des choses qu'on ne sait pas. On sait que le virus, il va rester jusqu'à 9 jours, voire plus sur des surfaces. Donc on peut s'imaginer que le virus, il a peut-être voyagé avec les marchandises, parce qu'on ne savait pas ça encore. Mais ça ne veut pas dire que chez soi, il faut faire un tri entre les choses qu'on a touchées il y a 10 jours et faut pas rentrer dans ce calcul-là parce que c'est un piège.
Puis dans les laboratoires aussi, les tests, ils sont pas faits avec du soleil, par exemple. Si nous, en ce moment, il fait beau, il y a du soleil. Le soleil, ça peut pas mal détruire le virus sur
les
surfaces.
Le soleil, en fait, il y a des rayonnements dans le soleil qui vont altérer l'ADN. Et ça, on le sait. Quand on dit si vous allez trop bronzer ou si vous exposez trop au soleil, vous pouvez avoir un cancer de la peau, c'est ça, en fait. C'est que les rayons du soleil, à un moment, ils vont envoyer une énergie assez forte pour casser l'ADN de nos cellules. Alors, éventuellement aussi, ils peuvent avoir cet effet d'altération de l'ADN sur le virus et du coup le tuer, quoi. Faut être prudent avec les études et à la fois, faut essayer de pas être parano mais d'être rigoureux. Si tu touches une surface où il y a eu virus avec ta main, le virus il rentre pas par la peau. Il va rentrer parce que la peau c'est des cellules mortes et il va rentrer si tu touches la bouche ou l'intérieur du nez ou les yeux quand il va toucher des muqueuses ou des cellules vivantes.
Et du coup, il consiste en quoi le test de dépistage? Il met combien de temps aussi?
Le test de dépistage, ça consiste en un... C'est en fait, on vous enfonce un coton-tige dans le nez.
Mm-hmm.
Oui, derrière la narine. Et donc, d'aller chercher à cet endroit-là, en fait, entre le nez et la gorge, d'aller frotter un peu et de ressortir le coton-tige et ensuite d'analyser cet échantillon. Donc, cet échantillon qui contient normalement des cellules infectées par le virus. Et en fait, ce test-là, comment on fait pour reconnaître qu'une cellule elle est infectée par le virus? On va aller chercher de l'ADN viral.
Mmh.
Et en fait, pour chercher de l'ADN viral, il faut une machine assez spéciale qui s'appelle une PCR qui permet d'amplifier l'ADN. Parce que l'ADN viral sur une cellule, il n'y en aura pas beaucoup. Et du coup, l'idée, c'est de l'amplifier pour essayer de l'identifier. Parce que sinon, c'est des doses ridiculement faibles. Alors, le problème qu'on a, c'est que en France, dans l'hôpital public, il y a 45 PCR actives sur le territoire. Et que, premièrement, ça met 24 heures. Ça coûte très très cher. Et ça met 24 heures à avoir les résultats. Et deuxièmement, il faut des réactifs, c'est-à-dire il faut une molécule. Après, une fois qu'on a amplifié l'ADN, il faut pouvoir le reconnaître. Donc il faut une molécule soit capable de reconnaître l'ADN du virus. Et en fait, actuellement, en France, on n'a pas, je crois, de cette molécule-là. On se laissait livrer cette molécule-là jusqu'à il y a une semaine par les Pays-Bas. C'est là, c'est ça qui est marrant, c'est que là, c'est le moment où on se rend compte qu'en fait, on est vraiment dans une société hors sol où en fait, on n'a pas de moyens de production. On n'a pas d'usine de masse, tout a été délocalisé. On n'a pas de moyens, en fait, sur le territoire français de produire des machines pour faire des tests, à part deux labos qui font des tests. Il y a Novacyt qui a lancé un test pour identifier le coronavirus déjà fin février et qui a réalisé à cette occasion-là un coût économique de dingue, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont augmenté de 40% en bourse. Et donc, eux, apparemment, ils ont développé un test qui marche en 45 minutes. Bien sûr, là, on parle du privé. Hein. Et on a aussi Biomérieux, qui est un énorme labo en France, qui est en train de préparer des tests rapides. Et donc l'idée, ce serait d'arriver à augmenter le nombre de tests faisables. Mais en fait, la stratégie de dépistage, elle est forcément liée à une stratégie géographique du virus. Parce que par exemple, ce qui a été fait en Corée, c'est quoi? C'est que les gens qui ont été malades, ils ont été très vite mis en isolement, en quarantaine, dans des locaux spéciaux. Et on leur a demandé, où est-ce que vous êtes allés tel jour, à telle heure, avec telle personne? On a refait en fait automatiquement leur emploi du temps depuis 15 jours. Ensuite, ils ont contacté toutes les personnes qui avaient été en contact. Toutes ces personnes qui ont été en contact, test systématique. Les personnes qui étaient positives, isolement, quarantaine. Les personnes qui étaient négatives pouvaient faire leur vie. Et ça, ça a été fait intensivement au début. Et là, en Corée, il n'y a presque plus de cas, en fait.
On entend parler qu'il y a des personnes qui sont plus à risque. C'est lesquelles, du coup?
La majorité des personnes qui sont décédées de ce virus sont des personnes de plus de 60 ans. Après, il y a des personnes aussi jeunes, et c'est aussi ce que je rappelais sur la question de la charge virale. Si on se prend dans la gueule une quantité énorme de virus, on risque de développer une forme grave, même si on est jeune et en bonne santé. Apparemment, les personnes plus à risque, c'est les personnes qui sont diabétiques, les personnes qui sont obèses, les personnes qui sont asthmatiques, les personnes qui ont de l'hypertension artérielle et les personnes qui sont séropositives. Ça dépendrait du coup de quelle est la charge de virus qu'elles portent et de quel est leur statut. Par exemple, je pense aux personnes qui sont séropositives mais indétectables, avec qui sont bien suivies. A priori, leur immunité est pas trop diminuée, donc ça va. Et du coup, en fait, toutes les personnes qui ont une immunité défaillante. c'est-à-dire qui ont moins de lymphocytes que les autres, qui ont des maladies auto-immunes. Donc ça, c'est les personnes qui seraient à risque. Après, ça ne veut pas dire que les autres personnes ne peuvent pas développer une forme grave et mourir. C'est vraiment pas ça que ça veut dire. Ça veut juste dire que ces personnes-là ont plus de chances de tomber très malades. Mais encore une fois, c'est une question de statistiques et de chances. En vérité, c'est surtout les personnes âgées qui vont avoir plusieurs pathologies, qui vont avoir ce qu'on appelle des comorbidités, c'est-à-dire des pathologies en plus qui vont tirer un peu vers le bas le pronostic sur l'évolution de la maladie. Il faut rappeler aussi que le fait d'être angoissé ou d'avoir une dépression, c'est des choses qui jouent sur l'immunité aussi.
On parle aussi des médocs qu'il faut éviter et du coup c'est lesquels et puis pourquoi ?
Les médicaments qu'il faut éviter c'est ce qu'on appelle les AINS. Les AINS c'est les anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est un terme barbare. En gros c'est tout ce qui est ibuprofène, nurofène, tous ces médocs contre le rhume qui sont hyper efficaces. Alors pourquoi exactement ? Je vais pas décrire le mécanisme biologique mais en gros quand on a un pathogène dans notre corps, quand on doit se défendre contre une agression d'une bactérie ou d'un virus, il y a ce qui s'appelle l'inflammation qui rentre en jeu, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de cellules qui vont commencer à proliférer et ça va donner des trucs où c'est gonflé ou c'est rouge ou... Et un signe de l'inflammation c'est aussi la fièvre. Et en fait l'inflammation c'est bien et pas bien. C'est-à-dire qu'il y a des fois, en fait, trop d'inflammation. Ça va empêcher de soigner correctement. Faut savoir que, du coup, l'anti-inflammatoire, il baisse l'inflammation et il baisse le fonctionnement de certaines cellules qui luttent contre les infections. Et par conséquent, il peut aussi favoriser certaines infections. En gros, par exemple, la cortisone, c'est un anti-inflammatoire très puissant qui est utilisé quand il y a une surinflammation qui n'est pas agréable pour la personne. Mais en fait, si je prends de la cortisone alors que j'ai un début d'inflammation qui est lié au coronavirus, je vais dire à la réponse inflammatoire de mon corps, je vais dire tais-toi. Et en fait, je vais laisser le virus de se développer. Et c'est ça qui est problématique, c'est que du coup, en fait, le virus va s'en sortir beaucoup mieux. Après, il y a des médicaments comme le paracétamol qui agissent sur d'autres voies que cette voie-là un peu générale de l'inflammation et qui, par contre, peuvent soulager la douleur et peuvent soulager aussi les questions de fièvre et tout. Une chose à dire sur ces médicaments qu'il faut éviter, c'est très sérieux. Moi, j'ai des confirmations de personnes qui travaillent à l'hôpital en soins intensifs avec des malades du coronavirus qui me disent qu'il y a des jeunes qui sont hospitalisés pas s'ils ont pris du ibuprofène ou pas s'ils ont pris de la cortisone. Et un truc auquel il faut être super attentif, c'est que malheureusement, dans les médicaments qui sont utilisés pour combattre l'endométriose et les règles douloureuses, il y a quelque chose qui s'appelle l'antadis notamment, et l'antadis, c'est du furdiprofène, c'est un INS, donc c'est un médicament à éviter actuellement. Je sais pas si c'est vraiment autant grave que le ibuprofène, mais c'est la même catégorie de médicaments. Donc là, c'est un truc qui n'a pas été trop relayé, et qui demande vérification, mais voilà. Si vous avez des doutes, il faut appeler votre médecin.
On peut voir la carte du monde des pays touchés, comment les pays sont touchés, ce genre de choses. Et en fait, apparemment, en Afrique, il y a genre vachement moins de cas et vachement moins de morts. Est-ce qu'il y a une explication pour ça ou pas du tout ? Est-ce que c'est lié à la température, aux conditions climatiques ?
Moi, j'ai des amis qui m'ont expliqué que la maladie, ça touchait pas les personnes noires. Malheureusement, c'est pas vrai. Ce qu'on a vu déjà, c'est que ce virus s'est disséminé beaucoup plus vite dans l'hémisphère nord qu'actuellement en hiver. Et donc, il y a des températures plus basses. Et en fait, ce que je disais tout à l'heure sur cette étude du Lancet Journal d'immunologie, et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, c'est un virus qui aime le froid. Apparemment, sa température de résistance préférée, c'est entre 1 et 4 degrés. Du coup, en fait, ça, c'est quelque chose qui explique en partie pourquoi le virus il se répand beaucoup moins vite dans l'hémisphère sud. Mais après, il y a des cas quand même. Et après, imaginons, je sais pas, qui fait 30 degrés, apparemment, à des températures supérieures à 20 degrés ou voilà, le virus se dégrade beaucoup plus vite sur les surfaces. Donc en fait, là, ça voudrait dire que, tout simplement, une transmission qui peut être très importante en France par rapport aux surfaces, va l'être beaucoup moins à Bamako parce qu'il fait plus chaud. Alors après, il y a beaucoup de pays africains qui ont activé aussi déjà des plans d'urgence par rapport à l'épidémie. Je pense notamment à l'Éthiopie où ils ont essayé de rapatrier tous les touristes qu'ils avaient, où il y a eu des histoires avec les touristes italiens qui voulaient pas rentrer chez eux. Donc, ils se retrouvaient sans papier en Éthiopie. C'est le Sénégal, le Burkina, la Guinée qui ont pris des mesures très importantes. Après, il faut voir aussi qu'il y a certains pays qui ont plus d'expérience des épidémies que nous. Pour nous, c'est la fin du monde, mais je pense qu'il y a aussi plein d'autres pays où les gens ils ont un peu l'habitude. Je pense que la question de la température, c'est une question importante. Mais encore une fois, le contact humain, c'est vraiment la contagion la plus importante. Donc, à ce niveau-là, la question de la température, elle joue pas trop.
Ok.
Et en fait, la chose, je pense, sur laquelle on peut être le plus rigoureux, c'est sur la question des gens qu'on rencontre et qu'on fréquente. Parce que ça, on a les moyens de savoir, en fait.